Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
Notre prochaine invitée, ben, elle est en sol américain. Elle vient du Québec, mais aussi ben, peut avoir une perception qui est bien différente de ce que nos médias nous proposent ici, nos mainstream qui capitalent sur la peur et de boycotter tout ce qui est américain. Bon, on va aller la rejoindre. Julie Lesage, bienvenue à Truck Stop Québec.
Salut.
On te surnomme la Texane, hein, c'est ça?
Ben oui. Ça fait longtemps que ça me suit, sinon.
Ça te suit depuis tes podcasts d'il y a peut-être quoi, une dizaine d'années, quinzaine d'années environ?
Ah, c'est ça. Ça fait 21 ans que je suis ici. Là, fait que ça doit faire à peu près 15 ans là, que j'ai ce nom-là.
Oui. Première question. Ben, hier était supposé entrer en vigueur une imposition des tarifs de douane de l'ordre d'à peu près 25 % de l'administration Trump, tout ça. Est-ce qu'en sol américain, c'était quelque chose qui se discutait beaucoup?
Non. En fait, c'était supposé entrer en vigueur aujourd'hui, là, mardi.
Oui, c'est ça.
Mais, oui, sauf que je pense que pour le Mexique, c'était... on comprenait un peu plus que ça pouvait être dommageable pour nous. Pour les Canadiens, les gens ne savent pas vraiment qu'est-ce qui nous vient du Canada. Puis il y en a plein de choses qui viennent du Canada, là, mais c'est comme si les gens ne sont pas au courant. Hein, on entend parler souvent de ce qui nous vient du Mexique parce oui. que c'est écrit dessus, tu sais, quand tu achètes un avocat, c'est écrit là, Made in Mexico.
Oui.
Mais pour le Canada, on dirait que ça avait moins d'impact. Beaucoup moins d'impact.
Parce que c'est comme un genre de partenariat de longue date, puis on ne voit plus tellement ce qui arrive du Canada comme tel. Là.
Non, puis tu sais, les gens sont pas très... connaissent pas vraiment beaucoup la politique américaine. En fait, je veux dire canadienne. Donc, on connaît un peu Trudeau, puis Trudeau, on le connaît juste depuis quelques temps. Les républicains le connaissent plus que les démocrates parce okay. que on en parle énormément. Donc, on en parle à la radio, à la télé, quand on regarde des shows qui sont plus républicains, on parle souvent de Trudeau. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on le connaît. Puis, ben, c'est sûr qu'on n'a pas une bonne opinion de lui parce que ça nous est toujours amené par les républicains.
Oui.
Mais sinon, il y a vraiment, tu sais, ce qui se passe au Canada, c'est très, très, très inconnu de la majorité des Américains. C'est sûr que plus que tu t'approches du Nord, que tu sais, ceux qui vont aller au Canada plus souvent pour oui. en visite. Là, ça peut être différent, là, mais je parle vraiment là, globalement, partout. On ne connaît pas vraiment ce qui se passe au Canada.
Ils ont probablement, du côté américain, Julie, la même perception que 80 % des Canadiens envers M. Trudeau. C'est probablement pas l'homme de la situation. Puis deuxièmement, il devrait peut-être laisser sa chaise à quelqu'un d'autre qui va être plus en mesure d'avoir une négociation plus franche et directe avec M. Trump. Là.
Oui, exact. Puis tu sais, c'est la perception qu'on a aussi de Trudeau, parce que quand on l'a commencé à le connaître, c'était pendant la pandémie, puis c'est bon, c'était à cause de toutes les mesures là, qu'il y avait au Canada que nous, on n'avait pas ici. On est là, OK, là, ça va nous prendre quelqu'un d'autre.
Oui.
Mais encore une fois, tu sais, on s'en parle beaucoup parce que personnellement, tu sais, j'ai un intérêt au Canada.
Oui.
Mais ici, c'est rare. Tu sais, les gens vont me poser certaines questions parce qu'ils en ont entendu parler un peu, mais tu sais, c'est vraiment pas quelque chose qui était vraiment très important. Le Mexique, c'était quelque chose qui était un peu plus. Qui venait plus nous chercher ce qui arrive de la Chine aussi, parce que, tu sais, oui. on le sait, là, c'est vraiment plus un gros marché, puis les gens ont plus conscience de ce qui vient de la Chine puis du Mexique, mais pas nécessairement du Canada.
Oui, effectivement. Le Mexique étant votre voisin du Sud, avec beaucoup de criminalité, beaucoup de cartels, de la drogue aussi. Ouais. Je suis passé, disons, au sud des États-Unis l'été dernier. Je voyais qu'il y avait quand même une partie d'un mur, là, tout ça. M. Trump vise à renforcer un peu cette douane-là, là, tu sais, cette frontière-là. Est-ce que chez vous, c'est, disons, des défis quotidiens pour les gens, mettons, qui habitent plus proche de la frontière du Mexique, de voir des clandestins passer ou des criminels passer, tout ça, sachant très bien que, tu sais, je pourrais comprendre un ou deux travailleurs étrangers qui vont aller travailler dans un champ de la culture, pas tellement dangereux, mais de voir des criminels, est-ce que c'est source de problèmes pour les États-Unis?
L'immigration illégale, c'est une grosse source de problèmes, mais ce n'est pas nécessairement les problèmes que les gens vont penser. Donner un exemple, ma fille habite sur les lignes du Texas du Mexique, donc El Paso. Et si on regarde les stats, El Paso, c'est une des villes les plus safe aux États-Unis. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on est à proximité de où les illégaux viennent que c'est tous des criminels. Par contre, le problème qu'on retrouve à avoir, c'est que souvent, ils vont venir ici utiliser nos ressources. Par exemple, les hôpitaux sur le long des lignes sont toujours pleins. Si vous allez dans un hôpital ailleurs aux États-Unis, souvent, il n'y aura pas de temps d'attente.
OK. Fait que coller sur la frontière, t'as un temps d'attente plus sérieux, là.
Exact. C'est là que tu vas en avoir beaucoup. Et un des problèmes qu'on avait, c'était les gens qui venaient ici pour accoucher, les femmes enceintes qui venaient ici accoucher pour que l'enfant ait la citoyenneté américaine automatique. Donc, c'est plus les ressources. Et en plus de ça, depuis quelques années, les démocrates avaient à instaurer une espèce d'assurance. C'est pas une assurance que tu prends en prévention, comme la majorité des assurances. C'est une assurance que tu demandes quand tu en as besoin. Et c'était pour les illégaux. C'est une assurance santé. Donc, ça donnait le droit, dans le fond, à des illégaux, donc sans papier, le droit d'aller de se faire traiter dans le fond, et le gouvernement finissait par payer la facture. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui font que c'est de venir chercher nos ressources, c'est plus là le problème. Est-ce que des criminels? Oui. Sans payer, exact. Donc, viennent ici, viennent. Puis tu sais, je dis pas qu'il n'y a jamais de bon dans l'immigration illégale parce que ces gens-là finissent par contribuer. Bon, ils ne payent pas de taxes, bien entendu, mais ils vont prendre des emplois que d'autres personnes ne voudraient peut-être pas. Mais si on regarde plus le paysage au grand complet, ben on voit que c'est plus un problème que ça a plus de désavantages que d'avantages. On le voit, nous autres, ici. Pendant des années, le Texas criait que c'était un problème. Pendant des années, le Texas disait, tu sais, on a besoin d'aide. Ouais. Et ce qu'ils ont décidé de faire, je pense que DeSantis avait fait ça aussi, c'est de les envoyer dans d'autres États. Puis ça nous a vraiment aidé parce que là, ça devenait plus juste le problème des États près des frontières, ça devenait le problème de tous les États. Et là, c'est là qu'on a commencé à vraiment voir, OK, là, c'est une des raisons aussi que je crois que Trump est allé chercher beaucoup de gens pour le supporter ailleurs là, que près des lignes et même ceux qui étaient pour l'immigration illégale voyaient à quel point ça pouvait devenir un problème, puis là, on décidait, OK, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure chose. Même chez les démocrates. Donc, même chez les démocrates, on s'aperçoit que c'est incroyable le flot de gens sans papier qui rentrent au pays à tous les jours. C'est complètement fou. À partir du Mexique.
C'est-tu l'équivalent de notre chemin, Roxham, où il y a un paquet d'illégaux qui sont rentrés au Canada, qu'on a perdu la trace pour certains, qui rentraient aux États-Unis avec aucun papier, puis à un moment donné, on s'y fait. Puis est-ce que c'est ce que Trump veut ramener un peu à l'ordre dans ses 4 prochaines années au pouvoir?
Oui, exact. C'est sûr que lui, bon, il avait comme mis l'accent. Bon, en fait, la première chose qu'il a faite, c'est vraiment d'envoyer un message qui était, tu sais, quand on écoute, on va tout déporter, on va, bon. Puis, ils ont déjà commencé à faire des déportations en passant. On en entend oui. ici. Je voyais des gens ici mettre ça sur les réseaux sociaux comme quoi que quelqu'un, son enfant à l'école avait un ami qui avait été déporté, des choses comme ça. Donc, oui. c'est déjà commencé. Mais c'était surtout, je pense, un message envoyé pour, bon, si vous aviez l'intention de venir aux États-Unis, c'est pas une bonne idée. Donc, c'était en premier lieu un message envoyé aux gens qui y pensaient. Puis là, après ça, c'est sûr qu'on veut, mettre l'accent sur les gens qui sont des criminels.
Oui.
Donc, on va commencer par là, de vraiment déporter, de mettre toutes les ressources vers plus... ce qui est plus criminel. Puis bon, après ça, je ne sais pas à quel point on va vraiment tous les déporter. Je pense pas que ce soit possible de toute façon parce qu'il y en a tellement, on n'a pas les ressources pour ça, mais de vraiment focusser sur le problème. Trump a dit qu'il voulait s'attaquer au problème de la drogue, des cartels,
oui.
Du fentanyl, qui est un méga problème, pas juste ici, là, c'est
partout.
Un problème aussi au Canada.
Oui.
Exact. Donc, c'est un peu une des raisons pour laquelle je pense qu'en ce moment, Trump, en ce moment, tout ce qu'il fait, là, c'est très clair, il fait du ménage.
Ouais.
Il fait du ménage au gouvernement, il fait du ménage dans les agences qui, selon lui, ne faisaient pas ce qu'ils étaient supposés faire. Donc,
Puis améliore pas le sort des Américains non plus, là, tu sais. On le sait, M. Trump travaille bien gros pour son pays. Quoi qu'en disent les mainstream de ce monde, mais il travaille pour que les Américains s'enrichissent. Il va faire plus d'argent, tout le monde va faire plus d'argent, puis c'est correct. C'est comme ça, tu sais. On aurait peut-être intérêt, des fois, à prendre un peu de Trump et de mettre ça ici, de ce côté-ci de la frontière. On serait peut-être plus, disons, rentable et on ferait peut-être plus de sous. Dans le cas où, tu as sûrement entendu, là, où tout le monde disait, bon, là, il faut interdire en sol québécois les vins américains, il faut canceller notre compte Netflix, faut enlever tous les abonnements qu'on a avec une compagnie américaine. Puis des fois, c'est plate à dire, mais la compagnie américaine a des installations au Canada ou au Québec, tout ça.
Ouais.
Est-ce que ça a fait une vague aux États où, tu sais, c'est tellement minuscule comme geste que ça a zéro impact, là?
Non, puis tu sais, c'est juste que c'est perçu comme, tu sais, plus une crise. Ah, oh, ben moi, d'abord, tu sais, je vais arrêter d'acheter. De toute façon, c'est tellement pas intelligent parce que de plus acheter, parce que les bureaux canadiens de ces
ouais.
grosses compagnies américaines-là emploient des Canadiens. Donc, c'est
ouais.
d'empêcher des gens canadiens d'avoir un emploi. C'est
ouais.
comme, allô? ça
ben
fait
oui.
absolument aucun sens.
Ben oui.
Je comprends que c'était frustrant. Tu sais, probablement qu'avoir été au Canada, surtout si c'est pour t'affecter ton emploi, affecter ta facture d'épicerie. Je comprends que les gens sont fâchés, mais la réaction était vraiment, c'est pas de cette façon-là qu'on aurait dû la faire. Et là, on se retrouve avec, on a commencé à faire des actions comme ça avant même qu'il y ait une vraie négociation de
ouais,
fait.
Ouais.
Puis là, on se retrouve avec, oh, OK, bon, là, il faut qu'on remette les vins sur les étagères de la SAQ.
Ouais.
Ça devient un peu embarrassant, mais bon.
Bon, toi, tu connais bien la politique américaine, tu connais, disons, les républicains, les démocrates, tout ça. Tu t'appelles Justin Trudeau. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent que d'attendre et de regarder, bon, le beau ciel bleu, les arcs-en-ciel et tout ça? Est-ce que tu aurais déjà négocié ou en tout cas pris rendez-vous avec M. Trump et dire on doit s'asseoir, puis on doit discuter, puis on doit regarder ensemble? Vous voulez quoi? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce que ça va prendre X nombre de jours, X nombre de semaines? D'être proactif avec Trump, est-ce que M. Trump est quelqu'un qui aime des gens proactifs? Puis là, arrêtez-moi avec, ben là, on n'est pas obligé de s'appeler à ventrer devant. Non, non, mais tu sais, il y a une demande de la part de notre voisin du Sud. Est-ce qu'on est capable de la réaliser? Oui, comment? Non, comment? Puis d'être proactif avec le personnage, est-ce que ça aurait été la meilleure façon de fonctionner pour Justin Trudeau?
Ben, je pense que j'ai une opinion un peu différente de toutes les personnes avec qui j'ai parlé là-dessus. J'ai comme l'impression que tout ce qui est les tarifs annoncés avec le Canada, ça fait absolument aucun sens. J'ai vraiment l'impression que c'est une partie de la stratégie. Ça n'a absolument rien à voir avec l'immigration. Puis qu'on va avoir la partie 2 dans un mois ou deux. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression que quand Trump parle du 51e État, il est sérieux. Il est très sérieux. Donc, le fait de faire ce que je pense qu'il est en train de faire en ce moment, encore, c'est juste une opinion, puis j'ai pas vu vraiment ailleurs.
T'as pas de boule de cristal, disons.
J'ai pas de boule de cristal. Ouais. Mais ce que je dis, j'ai vraiment l'impression que ce qu'il est en train de faire, c'est parce que ça fait longtemps qu'il dit que la protection des douanes va se faire, c'est les autres pays qui vont payer pour. Puis là, c'est exactement ça qu'il est en train de faire, parce que il l'avait demandé dans son premier mandat. Tu sais, on s'en rappelle, il disait, il parlait souvent du Mexique, il disait they're gonna pay for it. Tu sais, et là, ce qu'il est en train de faire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il a fait bouger les deux pays qui vont envoyer des ressources aux frontières, puis vraiment sécuriser la douane. Mais lui, il paye rien.
Oui.
Mais je ne sais pas, j'ai comme l'impression que la guerre économique, parce que je pense qu'il va en avoir une, elle n'est pas terminée avec le Canada.
OK. Fait que dans le fond, ça risque de passer sous son espoir que le Canada devienne un État américain, peut-être 10 provinces, donc 10 provinces, 10 États américains, ça serait peut-être comme ça, vu peut-être de M. Donald Trump. Est-ce que c'est viable selon toi? Est-ce que, tu sais, parce que, bon, t'as vécu de ce côté ici de la frontière, maintenant t'es de l'autre côté. Est-ce que ça serait une bonne idée, une mauvaise idée? Tu vois ça comment?
Bien, personnellement, quand je regarde, j'aime pas ça les grosses organisations. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'aime les États-Unis, c'est parce que les États ont beaucoup de pouvoir, ont beaucoup plus de pouvoir, mettons, que les provinces au Canada. Donc, d'avoir un pays encore plus gros, je pense pas que c'est une bonne idée.
Okay.
Bon, c'est certain que le Canada est reconnu pour ne pas exploiter ses ressources, puis que là, bon, il y a quelque chose là qu'on pourrait exploiter, puis bon, ça l'aiderait tout le monde, ça l'aiderait les Américains, mais ça l'aiderait aussi les Canadien qui deviendrait américain. Je pense que c'est pas une bonne tactique. Il y aurait peut-être plus un annexe ou quelque chose. Tu sais, moi, je suis vraiment plus pour le libre marché. Puis,
abolir la frontière, est-ce que tu as une bonne idée, mettons, qu'on abolirait notre frontière entre le Canada et les États-Unis, mais qu'on travaillerait main dans la main pour trouver les illégaux ou les trafiquants ou les criminels?
Oui. Exact, sauf que pour pouvoir faire ça, il faudrait que le Canada, parce que le problème avec le Canada en ce moment, c'est l'immigration est tellement facile.
Ouais.
Puis je travaille en immigration, donc je sais exactement de quoi je parle.
Ouais.
Les gens arrivent au Canada de n'importe quel pays. Tout le monde sait dans le monde que le Canada, c'est la porte d'entrée pour les États-Unis. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on demande un visa. Puis quand tu es quand même quelqu'un qui a réussi ou qui a de l'éducation dans ton pays, c'est relativement facile de pouvoir déménager au Canada. Et là, on reste là un certain temps jusqu'à ce qu'on puisse avoir la citoyenneté canadienne.
Oui.
Chose encore qui est relativement simple si on regarde, si on compare avec d'autres pays. Et dès qu'on a la citoyenneté canadienne, on m'appelle. Puis okay. On dit « Bon, regarde, j'aimerais ça déménager aux États-Unis. Okay. » Mais c'est des gens qui partent d'ailleurs. Donc, j'en ai de tous les pays sur la planète que c'est leur tremplin vers les États-Unis. Et parce qu'on a, puis si tu parles français, t'es pas mal sûr, ça va être excessivement facile. Les gens passent par le Québec. Après, j'ai un couple de Roumains qui ont fait ça, ont appris le français pour pouvoir immigrer au Québec. Ils ont okay. passé une journée au Québec. Une journée au Québec. Ils ont déménagé en Alberta.
Incroyable.
Et dès qu'ils ont eu la citoyenneté américaine, là, ils sont venus ici. Donc, canadienne, je veux dire. Donc, quand ils ont eu la citoyenneté canadienne, ils ont décidé de faire le move pour venir vers les États-Unis. Et ça, c'est excessivement courant. J'en vois vraiment, vraiment souvent.
C'est-tu facile comme processus, Julie, disons, d'arriver de la Roumanie, tu viens en sol canadien, une fois que tu as tes documents, tes papiers, la citoyenneté, tout ça, de téléphoner à une personne comme toi et dire « je veux devenir Américain à partir de là ».
C'est beaucoup plus facile pour un Canadien d'immigrer aux États-Unis que de partout ailleurs sur la planète.
Okay.
Donc, les Canadiens sont privilégiés pour la majorité des visas.
Okay.
Donc, il y a aussi des visas qui sont nullement accessibles aux autres pays. Donc, c'est que pour le... Ben, je sais pas combien de temps ça va durer, là, mais c'est parce que c'était avec la LENA, là, donc le TN qui, dans le fond, est pour les Canadiens et pour les Mexicains, mais pas pour personne d'autre. Donc, ça, c'en est un. Donc, ça donne plus l'accessibilité. Mais bon, c'est ça. Donc, c'est comme par exemple pour un Indien de venir investir aux États-Unis, c'est très, très difficile. Ils doivent passer par un autre, avoir un autre citoyenneté. Donc, ils vont passer. Ouais. Donc, on passe souvent par le Canada pour venir vers les États-Unis éventuellement. Puis ça, c'est vraiment un effort familial.
Okay.
Donc, c'est souvent, on va envoyer une personne au Canada qui, après ça, éventuellement, va faire venir toute sa famille. Donc, ça, c'est excessivement courant aussi. Mais, fait que, tu sais, l'argent vient de toute la famille au complet, non pas juste d'une personne ou d'un couple.
OK. Tu es chroniqueuse un peu partout, Radio-Canada, TVA, tu sais, on te demande partout vu que tu es en sol américain. Depuis l'avènement de Trump, est-ce que ton Facebook est rempli de hargne envers toi? Est-ce qu'il y a des gens qui te disent toutes sortes de bons mots de gratitude comme quoi que M. Trump est au pouvoir ou tu reçois un paquet de bêtises de temps en temps?
Bon, c'est sûr que dernièrement, j'ai reçu beaucoup de bêtises parce que je dirais que même ceux qui étaient un peu plus en faveur de Trump, quand ça vient t'affecter dans ta vie personnelle, tu vas changer d'avis. Donc,
oui.
Plusieurs gens qui ont changé leur opinion sur
oui.
Trump, qu'on parle de qui est maintenant rendu un dictateur, puis bon, qu'il est dangereux, puis bon. Il fait des moves un peu douteux.
Oui.
Puis bon, puis parce que je supporte, chose que je ne supporte pas vraiment, mais oui, je reçois des messages de haine.
On va t'étiqueter à Trump, puis parce que tu es américaine, tu es une traite parce que tu as lâché le Québec, tout ça. J'imagine qu'on te beau de toutes sortes de beaux qualificatifs.
Oui, mais tu sais, encore là, c'est vraiment, je vois vraiment beaucoup de la frustration. Parce que la première phrase de beaucoup de ces messages-là commence par « t'es une vraie blonde
». Oh non!
C'est ça.
C'est incroyable.
Fait que tu sais, je me dis « bon ». Donc, s'ils s'attaquent à ça, c'est parce qu'on va pas vraiment d'argument. Mais là-dessus, là, je dis souvent que on peut pas se cacher que le Québec ne donne pas, le Québec même plus que le Canada, parce que à cause de la langue, là, ne donne pas une bonne couverture juste. Donc, les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement.
Ça prendrait un média de centre-droite ou même de droite ici au Québec pour réajuster un peu ce que les mainstream nous garochent en quantité industrielle. Puis là, je vous enlève le fait d'écouter les canaux de nouvelles quotidiennement où je pense que c'est aux 15 minutes qu'on vous repitche toujours la même nouvelle, mais tu sais, de façon peut-être très gauchiste. Et, tu sais, sans aucun apport, il y a deux côtés, une médaille, hein, puis d'avoir les deux côtés, ça serait le fun, mais il y a très peu de chroniqueurs, puis je pense qu'ils n'ont pas tellement de longévité dans nos médias quand ils nous parlent des deux côtés de la médaille, tu sais. On peut détester Trump, on peut l'aimer, ça n'a pas d'incidence là-dessus. Mais est-ce qu'on pourrait avoir, un autre son de cloche, un peu comme toi, quand tu nous amènes ce son de cloche-là, qui pourrait être diffusé sur des mainstream, mais on va... Puis je le sais, j'en ai fait des entrevues, mais il y a souvent des dîners à la con là-dedans. Là, tu sais, on va te faire venir, mais c'est pour mieux te rentrer dedans ou pour mieux, après ça, avoir deux, trois sujets pour dire « Ah, avez-vous vu ce qu'elle a dit? » Puis c'est abominable. Puis, tu sais, c'est un peu ça, là.
Ouais, c'est ça, exact. C'est juste que, encore une fois, puis il y a la raison pour laquelle je suis partout, c'est pas parce qu'ils m'aiment tant que ça. C'est parce qu'il y a personne d'autre qui veut les faire.
Ouais.
Mais c'est souvent, en fin de semaine, je pouvais pas les faire. Puis là, ils me disaient, on peut-tu vous passer juste là, quelques minutes, là, dans quelques minutes? Puis non, je suis pas disponible. Mais c'est parce que il y a personne d'autre. Fait que c'est comme si, c'est certain que, bon, tu sais, moi, je me suis habituée de recevoir des messages, puis je les trouve drôles maintenant. Mais tu sais, c'est pas tout le monde que, tu sais, ça va pas déranger. Mais, d'avoir vraiment un son de cloche différent, au moins, tu sais, on regarde, des fois, je fais juste regarder la presse ou dans le titre, j'ai même pas besoin de lire l'article pour comprendre que le journaliste en arrière de là, il est déjà biaisé. Ouais. Donc, juste par les adjectifs qui sont utilisés, puis c'est avec un ton, blablabla, Trump, tu sais, c'est vraiment, c'est flagrant. Puis là, tu sais, à tous les jours, tu finis par te dire, ben voyons, hey, c'est complètement fou. Puis là, tu sais, on a même de la famille, tu sais, qui comprennent pas, tu sais. Puis là, ils vont dire, ben c'est un fou. Puis là, vous vous faites brainwasher par, wow, tu sais, je veux dire, j'ai accès vraiment à une variété de médias ici qui m'expliquent les deux côtés de la médaille.
Ouais.
Et je me donne le devoir d'aller voir les deux côtés de la médaille. Donc, à tous les jours, je vais lire CNN, même si j'aime pas ça. Mais tu sais, je veux voir qu'est-ce qui se dit de l'autre côté.
Ouais.
Parce que des fois, ça se peut très bien que ce soit vrai.
Ouais.
Puis bon, on est capable de faire son opinion. Puis c'est pour ça que en ce moment, je suis comme ambivalente sur, oui, je supporte Trump. Je pense que j'ai confiance que c'est une stratégie qui fait pour le bien du pays, mais la façon dont il fait en ce moment, c'est du jamais vu. Donc, c'est un peu le chaos, le ménage qu'il est en train de faire. Mais il a toujours dit qu'il était pour faire du ménage.
Ouais, c'était connu, ça.
Des fonctionnaires fédéraux. Mais là, c'est ça. Il est en train de vraiment faire des coupures assez drastiques à ce niveau-là, couper dans ce qui donne rien. Puis les gens disent qu'ils vont perdre leur emploi. Non, on les renvoie ailleurs. C'est juste que souvent, ils n'acceptent pas leur nouveau mandat.
Ouais.
Mais ce n'est pas des gens qui n'auraient plus d'emploi après, parce que c'est encore une fois pas le but de Trump que les gens soient sans emploi. Non, il veut qu'il y ait de l'emploi.
Donc, il veut une économie forte.
Exact. Il veut une économie forte. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a 4 ans. Donc, il va vraiment faire tout ce qu'il va... Il va essayer, du moins, de remplir toutes ses promesses. Donc, on va voir. Puis, c'est certain que dans ce qu'il a dit sur le Canada, moi, je trouve que c'est assez fort. Je crois vraiment que c'est un de ses buts. D'au moins annexer le Canada
aux États-Unis.
Puis d'annexer le Canada aux États-Unis.
Oui. OK. On sait bien qu'on n'a pas de boule de cristal, là, mais est-ce qu'un Pierre Poilievre du Parti conservateur aurait été beaucoup plus fort ou beaucoup plus en mesure de s'asseoir avec Trump puis d'avoir un discours plus égal que Justin Trudeau qui a peut-être fait 2-3. Bonjour, M. Trump. Tu sais, est-ce qu'on aurait eu une meilleure négociation, selon toi, avec un parti conservateur au pouvoir, avec M. Poilievre?
Ben, le problème avec les candidats comme ça qui ont jamais été des élus, là, qui ne savent pas du tout ce qui se passe réellement, ça, qui arrivent, ils ont toujours des idées, OK, moi je vais faire ça, mais que finalement, quand ils arrivent, puis qu'ils voient, OK, bon, c'est pas quelque chose qui va être possible de faire, à cause de ça, je pourrais pas. Fait que c'est difficile de le voir. Poilievre, il y a des idées qui sont beaucoup. Bon, pour nous, c'est pas des idées. Il est pas conservateur, là.
Ouais.
Parce que pour vous, il est très, très conservateur, mais pas pour nous.
Ouais.
C'est sûr qu'il y aurait eu probablement question économique. Je pense qu'il aurait été plus en mesure de négocier avec quelqu'un comme Trump. Mais encore là, on ne le sait pas. Il a l'air assez solide, mais je ne sais pas à quel point contre Trump, ça serait quelque chose de quand même difficile. Mais je pense que ces deux-là pourraient quand même bien s'entendre.
Il y aurait peut-être une meilleure, disons, cohabitation entre les deux versus peut-être Justin Trudeau. Puis moi, tu sais, si on regarde Trump, qui n'a pas rappelé Trudeau pendant de nombreux jours, ça n'en dit long sur ce que Trump peut penser de Trudeau. Puis je serais peut-être même pas surpris, parce qu'il y a des gens, hier on en parlait, il y a des gens qui nous disaient « Ouais, mais si on avait un bon premier ministre, probablement que Trump serait plus lousse avec nous autres. » Mais là, tu sais, visiblement, avec un Justin, écoute, tu négocies avec qui, avec quoi, comment? C'est un gars qui est en fin de mandat, puis qui a peut-être moins d'intérêt, ou il n'a jamais eu d'intérêt, peut-être, à écouter les demandes américaines. Puis quand on cohabite avec quelqu'un, bien, c'est un peu comme une vie de couple, hein? Tu sais, il faut mettre de l'eau dans notre vin de temps en temps, puis l'autre aussi doit mettre de l'eau dans son vin. Puis je pense que tout le monde, dans ce temps-là, arrive avec un but unique. En terminant, Julie, puis encore là, tu n'as pas de boule de cristal, c'est quoi les prochaines semaines, prochains mois pour les Canadiens? Est-ce que tu penses que M. Trump va quand même éventuellement imposer ses tarifs de 25 % ou s'il voit, parce que là, il y a 10 000 agents qui vont être aux frontières, bien, il se dit, bon, OK, j'ai peut-être gagné cette partie-là, tout ça. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres demandes éventuellement ou là, on va s'en tenir à dire, bien, maintenez la frontière comme ça, bien, on va être bien heureux?
Non, comme je disais, la frontière, moi, je pense plus que c'était une raison pour déclencher le... Parce que, bon, il a été capable de faire un décret parce que c'était une urgence. Donc, il a été capable de faire passer ça là-dessus. Mais je pense qu'avec le Canada, c'était pas vraiment la raison première. Je pense que c'est plus économique. Puis il en a parlé aussi, tu sais, quand on l'écoute dans ses discours qui parle du Canada, il parle à quel point le Canada maltraite les États-Unis depuis des années avec leur... Parce que bon, puis il y a plein de monde que je savais qu'ils savent même pas à quel point c'est compliqué pour une compagnie américaine d'aller s'installer au Canada, mais aussi d'aller vendre ses produits là-bas. Il y a plein de... Je faisais des parallèles avec plein de petites... des choses que je connais moi-même. Par exemple, la compagnie Aldi, qui est un, je sais pas si les gens qui vont aux États-Unis tout le temps, surtout des truckers, doivent savoir c'est quoi Aldi. C'est une épicerie qui est très, très pas chère. Puis à chaque fois que cette épicerie-là s'installe quelque part, ça fait baisser le coût de l'épicerie partout.
Ouais.
Et là, le lobby des gens d'épicerie au Canada ne veulent pas que Aldi aille s'installer là-bas, ce qui ferait vraiment chuter le coût. Ça l'a fait en Australie. Donc,
puis Aldi...
c'est des choses comme ça que...
Aldi, Julie, arrive pas avec des, des fruits dégueulasses, tout ça. Il y a une belle qualité. Dans le surgelé, belle qualité aussi. Puis même dans les produits, belle qualité aussi. C'est peut-être pas une épicerie où tu vas faire full ton épicerie-là, mais en tout cas, tu sais, peut-être le trois quarts de ton épicerie, tu vas avoir sauvé énormément de sous, là.
Ah, exactement. Puis dans le fond, puis ils vont utiliser les produits locaux. Donc, c'est une belle entreprise que que nous ici, ça a complètement changé. C'est pour ça que ça nous coûte vraiment pas cher.
Oui.
Vraiment, vraiment pas cher. Donc, parce que les autres épiceries n'ont pas le choix de suivre parce qu'il n'y a personne qui ira acheter le truc-là. Donc, oui. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est l'accessibilité à des produits. On dit toujours que le lait américain est mauvais. Mais c'est tellement faux parce qu'on a beaucoup plus de qualité et c'est beaucoup moins cher. Je prenais l'exemple de quand je vais au Canada, ce qu'on appelle le beurre qui est très jaune, là, celui qui est grass-fed de pasture. La seule façon que tu peux en acheter au Canada, ça va te coûter, c'est 10$.
Facilement.
Et pour la même quantité ici, je paye moins de 3$. Et c'est la même, c'est une excellente qualité. Donc, c'est des choses comme ça qui fait en sorte que on va. C'est une arnaque, tant que moi, c'est une arnaque, oui. Dans le fond. Et on dit aux gens que la raison pour laquelle on n'accepte pas des produits d'ailleurs, c'est pour la qualité, puis on veut protéger, mais c'est totalement faux. C'est vraiment parce qu'on veut avoir un contrôle des prix.
Effectivement, la gestion de l'offre aussi fait partie peut-être des deals que Trump voudra probablement amener oui. Prochainement. Puis effectivement, pour connaître un peu le marché américain, 3,12$, le meilleur marché pour un gallon de lait 2%, 3,12$, OK? Mm-hmm. Ça, c'est dans ce que j'ai trouvé de moins cher. Ici, tu sais, mettons avec le taux de change qui est au-delà de, mettez-les à 1,50$, bien, il y a probablement, mettons, 1,60$ à rajouter sur le taux de change de 3,12$, mettez-les à 5$. Mais on est à 8$ ici pour avoir du lait, là, tu sais, c'est, ça n'a pas de bon sens. Puis, on nous dit toujours que le lait américain est bourré d'hormones, bourré de ci, bourré de ça. Mais vous êtes combien? 300 quelques millions aux États? Peut-être plus proche du 400 millions. Et tous les Américains seraient morts, tant qu'à moi, là, tu sais, avec tout ce qu'on nous a dit sur le lait, là, tu sais, puis c'est des consommateurs de lait comme tout le monde.
C'est pour ça que je donnais l'exemple de vraiment une qualité, là, tu sais, qu'est-ce qui mettons, bio, aussi, grass-fed, tout ça, tu sais, oui. C'est de très bonne qualité.
Oui.
Donc, on est capable de comparer les deux. Je dis pas qu'il n'y a pas aucun lait qui vont encore utiliser des hormones, mais maintenant, c'est très, 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 très rare. Mais au Aldi, tu peux avoir ton gallon de lait pour à peu près 2$. Donc,
oui.
Ça comme ça.
Effectivement. 2$. Puis, quand je regarde sur... faites une recherche, vous le ferez vous-même, là, sur Google, sur le lait américain avec le mot « hormone », là, il n'y a pas de site mm-hmm. américain qui me réfère à ça. C'est seulement des mainstream d'ici qui rapportent une nouvelle de... sur des fermiers. Puis là, on dit qu'environ une ferme sur 5 utilise de la... somatotropine bovine recombinante, une hormone de croissance qui stimule la production de lait, tout ça. Est-ce que c'est dommageable? Il n'y a personne qui nous le dit, mais en tout cas, on dit qu'il y a une hormone, puis il doit y avoir des règles assez strictes que quand j'achète ton lait, il ne doit pas avoir d'hormones, ou il y a peut-être des fabricants ou des usines à lait qui vont l'accepter, mais ça doit être tellement minime. Julie Lesage, merci beaucoup de ta participation aujourd'hui. J'espère que on se parlera peut-être éventuellement comme égal à égal. Ça veut dire qu'on sera peut-être américain et on se parlera comme d'État à État. Mais tu sais, on verra ce que ça donnera. Puis merci de nous avoir éclairé aujourd'hui sur ta vision des choses du côté du Texas.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup. Julie Lesage, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. On va faire une courte pause. De l'autre côté de la pause, on parle avec un camionneur qui a 68 ans d'expérience derrière le volant. Pas 68 ans d'âge, 68 ans de carrière. Est-ce que vous allez vous rendre là? Bien, on en parle de l'autre côté de la pause. Restez là. Started out. All alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up.